des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle édition de l'émission Des livres pleins les oreilles, avec en première partie aujourd'hui une large place faite à Madame Béatrice Picard, dont le livre Avec l'âge on peut tout dire est maintenant disponible en version audio, commerciale et au SQLA. Et en plus, ça a été enregistré par chez nous avec nul autre que l'une des voix les plus belles, les plus suaves, les plus riches voix du Québec, que j'ai nommé Michel Keble, qui est déjà en studio, mais je ne vais pas le saluer parce que j'imagine qu'il est déjà tout rouge, alors on va comme... Pourquoi un homme, alors qu'il s'agit du livre de Béatrice Picard? Restez à l'écoute et vous comprendrez tout. En seconde partie, puisque c'est Pâques, je vous recommanderai quelques lectures qui concerne Pâques et la passion du Christ. Et je voudrais aussi vous inviter, et vous inciter d'ailleurs, à découvrir le dernier livre de Robert Lalonde, Un poignard dans un mouchoir de soie. Malheureusement, M. Lalonde n'a pas pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui, mais ça ne nous empêchera pas d'évoquer ce bouquin pour autant. Bienvenue à l'émission Des livres pleins les oreilles, réalisée, animée pour vous par Clotilde Seille.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour, quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
Oh, je veux te dire,
C'était Jean Gabin. Une chanson que notre amie Béatrice Picard ne renierait certainement pas, elle qui sait tellement de choses et qui les a rédigées, ou du moins qui s'est confiée à un auteur pour nous présenter ce livre qui s'appelle « Avec l'âge, on peut tout dire » et qui est lu par Michel Keble. Bonjour Michel.
Bonjour Clotilde, bonjour.
Alors c'est donc la raison pour laquelle on avait besoin d'une voix masculine, c'est simplement parce qu'elle s'est confiée à un homme.
Je crois bien, pour l'enregistrement du
pour
livre,
l'enregistrer,
oui.
C'est ça.
Je crois bien que c'est la
c'est la raison,
la logique derrière.
Voilà, exactement.
Ouais. Sylvain-Claude Filion, c'est l'auteur de ce livre-là, « Avec l'âge, on peut tout dire ». C'est une lecture que j'ai moi-même faite avec beaucoup de plaisir.
Ah oui?
Oui, beaucoup de plaisir. On s'engage des fois dans une biographie, et puis c'est un peu comme si on attendait ce qui vient. Tu sais. Mais là, pas du tout, ça se lit... Il y a toujours un élément de surprise, c'est bien mené, et c'est tout un contexte québécois culturel qui est derrière la vie de Béatrice, qui est présente un peu partout, mais qui fait place aussi, l'auteur fait place aussi à tout ce contexte-là par moment. Ça rend la lecture très très intéressante.
Ouais. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, Michel, mais à chaque fois que je lis une bio comme ça, et après quand je revois la personne ou quand je lui parle... J'ai un peu l'impression, je sais tellement tout d'elle, ou presque en tout cas, mais surtout dans son cas, il y a des choses dont elle ne parlait pas beaucoup, en l'occurrence de sa vie amoureuse. Elle va nous en parler là, mais elle a quand même élevé 4 voire 6 enfants, parce qu'elle a, etc. Alors on connaît la bonne femme de théâtre, de radio évidemment, et de télévision, parce qu'au départ, elle, c'est grâce au petit écran qu'elle s'est fait connaître, comme la plupart de ses comédiennes d'ailleurs à cette époque-là.
Oui.
Et en tout cas, c'est vraiment un personnage. Moi, j'ai adoré aussi, non pas le lire à haute voix comme vous l'avez fait, cher Michel, mais à voix basse. Parlant de lecture à haute voix, vous avez déjà un petit extrait pour nous?
Un petit bout, hein,
oh,
ça
oui,
me fait plaisir.
Un petit bout, comme vous dites.
Je suis à la page 217. Le samedi soir, 19 août, durant l'avant-dernière semaine des représentations, alors que l'on arrive au dénouement de la pièce et que Béatrice apparaît devant ses « enfants », entre guillemets, dans un costume de music-hall tout en plumes et en paillettes, elle ressent tout à coup un ralentissement bizarre de ses sens. Elle écoute les répliques de ses partenaires, mais elle ne les entend plus très bien. Elle ne comprend pas pourquoi elle a de la difficulté à se souvenir de son texte. Au lieu de déclamer « Charles, tu as des problèmes, prends-toi en main et règle-les », elle se met à balbutier « Charles, arrête, arrête, arrête !» Son instinct de comédienne chevronnée lui dicte de sortir tranquillement de scène, comme si de rien n'était, le temps de reprendre son souffle ou de boire un verre d'eau, vieux truc du métier, en cas de malaise. Ses partenaires de jeu constatent que quelque chose ne va pas lorsque Béatrice se dirige à pas lents vers les coulisses. Elle n'a pas progressé de 2 mètres qu'elle se sent enveloppée dans une sorte de brouillard, tout tourne. Devant les quelques 300 spectateurs qui perçoivent un battement inhabituel dans le déroulement de la pièce, Béatrice s'évanouit sur scène. Une spectatrice qui est médecin a quitté son siège pour se précipiter en coulisses. Elle découvre Béatrice affalée sur une chaise, elle vient tout juste de reprendre ses esprits. Pendant que la médecin examine ses signes vitaux, Béatrice insiste pour que l'on reprenne le spectacle. « Je vous dis que je vais mieux, je vais finir la pièce !»« Non, tranche la jeune femme, vous faites de l'arythmie !» Ce serait dangereux, et on ne sait pas ce que vous avez pour le moment. Malgré ses protestations, Béatrice est conduite à l'hôpital du Haut-Richelieu, à 2 kilomètres de là. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que les infirmiers veulent découper au ciseau le coûteux costume de scène qu'elle porte.
c'est tout elle. Quel bon choix d'extrait, c'est tout elle.
C'est vrai.
La volonté, le théâtre... Tout est là, faire attention à tout,
c'est de l'avant, tout le temps,
Vous savez quoi, je vous propose qu'on l'écoute, parce que Béatrice ne pouvait pas être là avec nous, elle s'est relevée très très bien, elle va maintenant beaucoup mieux suite à ce petit malaise, parce qu'elle en a eu un autre assez récemment, et elle avait ralenti beaucoup, on avait même peur qu'elle mette fin à sa carrière. Pas vrai du tout. Elle est repartie pour un tour, Madame Picard. Et on va l'entendre, elle était en répétition et il fallait attendre qu'elle ait fini sa répétition pour faire l'entrevue que nous avons faite ce midi. On l'écoute. Bonjour Béatrice Picard.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté entre deux répétitions de répondre à mes questions pour l'émission des livres pleins les oreilles. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, évidemment, votre bouquin. Avec l'âge, on peut tout dire. Ça, est-ce que ça veut dire qu'à une époque, vous ne disiez pas tout ce qui vous passait par la tête? Je ne sais pas, il y a une partie...
C'est-à-dire qu'à une époque, il était... inconcevable qu'on dise ce qu'on pense. Il fallait suivre des normes, hein, n'est-ce pas? Alors donc, on se contentait de penser intérieurement et d'agir comme on le voulait, mais de ne pas l'affirmer.
Et pourtant, André Lachapelle, à un moment donné, dit dans le bouquin... Quand nous étions jeunes, beaucoup avaient peur de s'affirmer. On n'avait pas le courage de Béatrice, qui disait les choses tout haut avec honnêteté. C'était dans son tempérament.
Oui, mais effectivement, mais souvent, il y a des choses que je ne disais pas. Je pense qu'elle faisait référence surtout quand il y avait des assemblées d'union, voilà. Où je me levais tout le temps pour... discuter. Moi, j'étais souvent dans des assemblées d'union comme ça. Là, les gens restent assis, écoutent les autres et attendent pour se former une opinion, de voir ce que les gens vont dire.
Madame Picard, elle se levait.
Poser des questions, quoi.
Ah, c'est ça. Parce que même Françoise Fauché, ça m'a tellement fait rire, parce qu'il me semble l'entendre, Françoise Fauché, dire « c'était de la pure audace, du culot, de l'inconscience
». Peut-être.
Vous avez bien failli d'ailleurs être avocate, hein, Béatrice Picard.
Oui, je ne suis jamais rendue jusque-là. Je ne suis même pas entrée à l'université après mon bac. J'étais prête à jouer au théâtre. J'avais décidé là que ce serait décidément ma carrière au théâtre et non pas... en faisant une profession libérale, au grand désespoir de mon père, d'ailleurs.
Et lorsqu'on parle de théâtre, par exemple, on a toujours l'impression, en lisant d'autres livres que le vôtre, que le théâtre est né quasiment avec Michel Tremblay, avec Les Belles-Sœurs. Or, vous dites,
non,
il est faux,
non.
Voilà. Il est faux de considérer, hein, je vous cite, hein, Béatrice, il est faux de considérer que le Québec a vécu dans une totale noirceur avant la Révolution tranquille. Une lame de fond se soulève et les artistes et les intellectuels redéfinissent leur rôle dans la société.
Oui.
C'est ça, donc il y avait, ça grouillait déjà.
Mais bien sûr, hein? et bien avant Tremblay, il y avait... Gracien Gélina, qui a fait un théâtre populaire, mais avec un parler français correct et non pas en... C'est la première fois que le joual a été mis en scène, c'est avec Tremblay, mais jamais il était question de parler joual au théâtre. On parlait en français, mais avec notre accent à nous, c'est tout. Il y a Dubé même qui a fait des pièces de théâtre, mais on parlait en français correct.
Et tout ce monde-là travaillait beaucoup à l'époque grâce à la radio, hein?
Oui.
Dont vous.
On allait dépenser nos cachets au théâtre, parce que c'était pas tellement payant.
Non.
On fournissait nos costumes, on faisait tout, alors... on le faisait pour le plaisir, on voulait que le théâtre s'amorce. Évidemment, il y a eu le père Legault qui a donné un grand coup, qui a permis justement au théâtre de s'affirmer davantage. Il y avait probablement des budgets que nous autres, les comédiens, on n'avait pas.
Oui, tout simplement. Et vous avez, et ça c'est la partie qu'on découvre beaucoup, qui était peut-être la partie un peu plus cachée, mais c'est toute la partie familiale. Moi, je n'en revenais pas quand même que vous ayez élevé ces quatre enfants, mais aussi les deux enfants de Jacques, hein, qui ont partagé votre vie. Et puis là, il y a eu alors toutes sortes de folies, cette fermette achetée à la campagne. Tout d'un coup, vous avez décidé de planter des haricots.
Il faut bien que je dise ce passe, comme on dit. comme on ne gagnait pas toujours beaucoup, beaucoup d'argent, on essayait évidemment de tout faire. Puis des fois, même l'histoire de la ferme, ça nous a coûté des sous parce que là, c'était un mauvais placement, disons.
Mais c'est pas grave.
Mais on est revenu à Montréal.
Voilà.
On a continué.
Voilà.
Ben, ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, je ne garde toujours que les bons souvenirs, mais je raconte les moins bons souvenirs, mais avec un petit grain de sel, quoi.
Votre taille, votre grandeur revient souvent. André Lachapelle, encore elle, dit « Pauvre Béatrice, parce qu'elle était grande et qu'elle paraissait plus mature que son âge, on lui faisait toujours jouer ma mère. »
Effectivement. Et d'ailleurs, même quand j'avais été étudiée à Paris, Madame Servan, qui m'avait rassurée en me disant « Vous avez du talent, Béatrice, mais vos grands rôles ne commenceront qu'à l'âge de 40 ans. »
De 40 ans. On avait dit ça à plein de gens quand même. Hein. Vous savez qu'à l'époque, hein, je me souviens qu'on avait dit la même chose à Philippe Noiret, chez les hommes, on avait dit la même chose à Jean Rochefort. Et c'est arrivé.
Oui, oui, effectivement. Mais parce qu'il y a quand même des physiques de théâtre qui... que voulez-vous, j'en avais pas l'air fragile. Comment j'aurais pu jouer les ingénues ou les jeunes premières?
Alors, Et en plus, vous avez côtoyé cette femme, Jeanne Maubourg, elle faisait de l'opéra et vous dites qu'elle possédait une forte personnalité, que vous avez beaucoup appris à son contact. Et comme vous étiez grande, elle vous a même appris comment fléchir discrètement les genoux sans que cela se voie sous la jupe.
En arrivant près de partenaires qui étaient plus petits que
oui.
nous. Parce que ce qui arrivait, moi, c'est que je jouais avec des talons plats. Et je regrette infiniment. Et Madame Maubourg m'a dit, écoute, Béatrice, tu ne dois pas te déprécier parce que ton partenaire n'a pas la grandeur voulue. Alors, tu te fais des talons hauts, lui, mais toi, garde tes talons hauts. Alors, tu gardes tes talons hauts, mais tu te rapproches. Et donc, ça finissait par me grandir davantage parce que on avait des talons de, je sais pas moi, d'un pouce, deux pouces, là, tu sais. Alors, donc, j'essaie. Parce que le côté élégant d'une démarche en talons plats n'est pas la même. Aurait mieux valu que je marche nu-pied à ce moment-là.
Et Béatrice Picard, comme il va bientôt être l'heure qu'on se salue, hein, je vous avais promis de ne pas vous prendre trop de temps dans votre heure de pause.
Ouais.
Comme on va se saluer, vous connaissez l'art du salut, il est même écrit dans le livre, quant à la mystérieuse mécanique du salut parfait, Béatrice n'en révèle pas plus, c'est son secret de la caramilk. Ça veut dire que là, je ne peux pas vous forcer un petit peu. C'est quoi un beau salut au théâtre?
Ah, c'est une, il faut que ce soit un salut très simple. Un salut comme quoi on remercie les gens qui nous voient. Ça ne doit jamais être un salut triomphal. C'est un salut de joie et de remerciement et d'émotion.
Et d'humilité.
C'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Puis, il y a d'autres petites choses, mais ça que je ne révèle pas.
Alors, Béatrice Picard, je vous salue avec beaucoup d'émotion et je vous remercie infiniment pour ce livre.
Je remercie la personne qui le lit présentement.
Et vous savez qu'il est là avec moi, Michel. Il sera là un petit peu plus tard en ondes, au moment où je vais diffuser cette entrevue. Donc, il va vous entendre, Michel Keble. Je l'ai invité à cette émission. Là. Voilà.
Entendu. Merci beaucoup de votre accueil.
Oh, de rien, Béatrice Picard. Merci mille fois et bonne répétition. Salut.
Merci.
Au revoir. Voilà, Michel Keble, Béatrice Picard qui a trouvé le moyen de penser à vous saluer, même si elle ne pouvait pas être
c'est
avec nous
gentil.
En studio.
Savez ce que je me disais en écoutant Béatrice qui disait « Il faut bien que jeunesse se passe ». Elle a mis ça en œuvre toute sa vie, mais elle n'a pas complètement réussi.
Effectivement, parce qu'elle
est
toujours aussi jeune.
Voilà.
Exactement. Parce qu'on peut le dire, elle le dit elle-même. Hein.
Oui.
Elle a 90 ans.
Ouais. Cette année, 90 ans, je ne sais pas quand exactement.
C'est ça,
là,
exactement.
Mais... Ouais.
Mais c'est quand même fou de voir cette femme, l'énergie qu'elle a.
Oui.
Elle apprend encore ses textes par cœur. Elle n'a pas besoin de souffleur, elle n'a pas besoin... Non, elle est vraiment étonnante.
Oui.
Puis,
oui.
Et puis une vie, comme toutes les vies, hein, Michel, qui ont été marquées par des succès, mais par des échecs, par des deuils.
Oui.
Elle avait été, entre autres, très marquée Lorsque le fils aîné de son mari, bah d'ailleurs qu'elle n'a jamais épousé, mais en tout cas de celui qui a partagé sa vie, Jacques, hein, dont elle parle beaucoup dans ce livre-là, ce jeune-là qui avait des soucis malheureusement, qui était aux prises avec des problèmes d'alcool et tout ça, et finalement décédé, ça avait été terrible pour elle. Et ses camarades d'ailleurs n'avaient pas manqué de la soutenir. Quand je parle de ses camarades, ce sont ses amies comédiennes.
Oui.
Avec qui elle est, elle se tient très souvent.
Oui.
On pense à Fleur d'acier. Quelle pièce de théâtre merveilleuse avec Françoise Fauché, avec France Castel, avec Monique Richard, avec Linda Sorgini.
Ça, c'est la bande d'amis.
Oui.
Avec lesquels elle est devenue vraiment
un clan, une famille,
une sorte de clan, c'est ça.
Exactement. Oui, oui. Et ces femmes-là sont encore très soudées ensemble. Et lorsque l'une d'entre elles ne va pas bien, toutes les autres sont là et répondent présentes, grâce à cette pièce qui avait été présentée à Sainte-Adèle, notamment, et Fleur d'acier. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, Michel Keble? Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce texte-là? Est-ce qu'il y a des...
Ben, j'ai eu le plaisir de connaître un peu Béatrice parce qu'elle a travaillé ici à Vues et Voix.
Elle a fait du bénévolat.
Elle a lu des livres et moi, je suis arrivé au moment où elle en faisait encore. Pour le moment, je crois qu'elle en fait moins ici, mais je l'ai connue grâce à ça, et vous aussi d'ailleurs.
Ouais.
Et là, j'ai été plus loin que ces quelques moments privilégiés que j'ai passés avec elle, c'est-à-dire que je suis plongé dans son passé, c'est ce qui m'a plu, et je suis plongé dans le passé, dans le passé culturel québécois. C'était l'intention de Sylvain Claude Filion, l'auteur du livre, qui a voulu recréer un peu l'atmosphère des années 30, 40, 50, en mettant dans son texte toutes sortes de petits rappels de ce que c'était à l'époque.
Et l'importance de la radio, de la télévision d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé avec elle, mais la télévision, les tout débuts de Radio Cannes, l'avènement du Canal 10.
Exactement. Et ce qu'il a voulu faire, lui, Sylvain Claude, c'est un documentaire biographique. Ça présente un peu l'ouvrage, voilà. Et puis, comment dire, ce tempérament un peu... hors norme qu'elle avait, Béatrice. Hein? C'est une femme qui a fait des folies toute sa vie, sans que les gens le sachent vraiment. Elle le dit, elle est restée vierge jusqu'à 23 ans, capable de dire ça aujourd'hui, il faut le faire. Qui n'a jamais été mariée, malgré la pression qu'il y avait probablement sur elle à l'époque. Et une organisatrice, mais vraiment jusqu'au bout des doigts, cette femme-là qui voit son agenda et qui travaille en fonction de l'agenda tout le temps, qui a même provoqué deux accouchements pour pouvoir respecter son horaire professionnel.
Ouais,
du théâtre, des émissions
c'est
de
fou.
Radio, des choses comme ça.
Il faut se replonger à l'époque. Et qui s'est caché à sa première grossesse, qui est parti vivre avec Jacques à Vancouver. Ses parents n'étaient absolument pas au courant pour leur cacher que non seulement elle vivait avec un homme qui était marié à l'époque, il n'était pas encore séparé, mais en plus... Comme ils voulaient à tout prix ce premier enfant, là, le premier des quatre, eh bien, ils sont allés se cacher à Vancouver.
Oui. Ils se sont aimés beaucoup.
Oui.
Ça, c'est dans le livre
aussi. Oui. Ça a été une grande, grande, grande histoire d'amour. Michel, on parle, je souriais beaucoup. On va revenir au livre de notre amie Béatrice Picard, mais je voudrais qu'on parle... de vous un petit peu. Michel, on s'est connus, nous, à la grande époque de la Tour, à Radio-Canada, puis qui va bientôt disparaître. Je ne sais pas s'ils vont finir par la faire imploser ou s'ils vont nous mettre... Je ne sais pas, mais en tout cas, peu importe.
Physiquement, ils seront juste à côté. Hein, vous savez,
oui,
ça.
C'est ça, ça, c'est ça. Mais je me disais, donc, vous avez été annonceur, animateur, très longtemps, pendant combien de temps ?
38 ans.
38
à Radio-Canada, oui.
À un moment donné, vous avez été même la voix officielle, non, de Radio-Canada?
Oui, ça, c'est drôle. C'est un poste qui n'existe pas vraiment, formellement, la voix officielle.
Non.
Ça n'existe pas vraiment. Ouais. C'est juste qu'on vous rappelle en studio, d'une année à l'autre, c'est vous qui faites les trucs, les annonces, les promotions de nos propres émissions. Et puis, je le partageais quand même. J'ai partagé ça de nombreuses années avec Jacques Clermont.
Entre autres, c'est vrai.
Comme voix masculine, il y avait aussi celle de Jacques Clermont.
Après, il y a eu Ginette Boivin chez les femmes.
Voilà, il y a eu Ginette. Oui, là, je serais un peu malheureux de nommer tout le monde.
Oui, moi aussi. Mais en tout cas, c'est parce que je me dis aujourd'hui, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'évidemment, ils ne vous entendent plus. Et ouais. Je suis sûre que vous êtes une voix qui devait leur manquer, notamment à la feu chaîne culturelle qui est devenue Espace Musique, etc. Ouais. Et ça vous a, vous, conduit tout naturellement à venir faire du bénévolat ici, chez Vues et Voix. Vous ne vous êtes pas posé la question, vous vous êtes dit, zou, allez, j'y vais, je fonce.
Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui devient quasiment instinctuel. Le micro, le microphone, le plaisir d'être devant, de parler, de faire les choses avec un art que petit à petit vous développez avec ces années là qui s'accumulent. Ben oui, vous développez des compétences et vous avez juste envie des mettre en route, des utiliser.
Vous venez d'utiliser le mot art. Pour vous, la lecture à haute voix, c'est un art?
Oui, dans le sens où... comment dirais-je?
Non, c'est pas de la prétention, là, parce que je vous connais, ouais. Vous êtes quelqu'un de très humble. Mais je pense que vous, comme moi, on le sait, c'est pas parce qu'on sait lire qu'on sait lire. C'est comme toujours l'expression que j'ai un petit peu.
C'est vrai. Non, c'est un art dans le sens où ce que vous entendez, c'est personnel. C'est chaque fois une sorte de petite création, si vous voulez, et vous y mettez le mieux... Oui. De vous-même, le meilleur de vous-même. Ouais. Et dans ce sens-là, c'est un art, je dirais, parce que c'est un geste qui, comment dire, qui veut juste faire un peu de beau.
Oui. Hein, lisez-nous un petit extrait, d'accord? Vous voulez bien
quelques-uns. Lequel préférez-vous?
Je vous laisse aller, mon petit Michel. Vous savez, aller avec le métier que vous avez. Il nous reste un bon 2 minutes. Là, de toute façon, je vous ferai signe.
Ça commence, ça s'appelle « Une femme libre ». C'est un petit chapitre du livre, à la page 208. « Rébellion ». Le mot convient à Béatrice si on le prend au sens où il exprime la volonté de briser toutes les chaînes pour parvenir à l'épanouissement de soi, envers et contre tout, et en faisant fi de ce que les autres peuvent penser. Jeune, Béatrice était timide, mais ne s'est pas révoltée. Elle a foncé tête baissée dans l'aventure de la vie. Elle s'est rebellée contre le dogme catholique pour vivre l'amour et fonder une famille sans être mariée. Rebellée aussi contre les dictats de l'Église, de l'élite culturelle, pour se donner le droit d'avoir du plaisir en jouant dans des comédies légères au Canal 10. Béatrice a la rébellion comme combustible pour gagner une liberté chèrement acquise, qu'elle continuera à cultiver avec ferveur, fureur, telle une James Dean de l'âge que l'on dit d'or. Fuyant les moules, n'appartenant à aucune chapelle, si l'on exclut sa relation quasi familiale avec la compagnie Jean Duceppe, Béatrice peut brandir avec fierté cet étendard d'outsider qui a toujours été le sien. Elle est plus que jamais libre. Voilà plus de 10 ans que Béatrice a renoncé à l'amour ou à avoir un homme dans sa vie, mais elle ne manque pas d'affection. Ses fils fondent des familles qui lui fourniront progressivement un joli lot de petits-enfants à chérir. L'aîné, François, participe à des missions avec les casques bleus de l'ONU à Chypre, avec les forces de l'OTAN. Il ira ensuite en Bosnie, en Irak, en Afghanistan. Et la lecture peut continuer, bien sûr.
Oui, mais tout ça pour dire à quel point c'est complètement passionnant et à quel point la vie de Béatrice Picard nous amène pas seulement au théâtre, pas seulement à la radio, pas seulement à la télévision, mais nous amène un petit peu partout dans le monde. Et beaucoup d'humanisme et une femme rare dans le sens où, comme l'a dit très bien André Lachapelle et Françoise Fauché, une femme qui osait parler. Et à l'époque,
c'est
rare ça, il fallait le faire. Michel Keble, merci beaucoup. C'est toujours un bonheur de vous entendre.
Merci. Vous qui
vous prétendez pas un causeur, je trouve que vous causez fort bien.
Et pour Béatrice, pour résumer tout ça, allez voir une photo récente d'elle et vous allez voir la lumière qu'elle a encore dans les yeux.
Et la photo bébé.
C'est fantastique.
Ah oui, la lumière qu'elle a dans les yeux. Et cette même lumière, je la retrouve quand elle est bébé. C'est très bizarre. Il y a une photo d'elle bébé et c'est la même petite face que maintenant. C'est assez hallucinant. Merci Michel Keble. Merci. Et le livre s'appelle.
Ça s'appelle l'âge, on peut tout dire, de Sylvain Claude Filion, paru aux éditions La Presse. Vous pourrez voir aussi, je voulais le dire.
Attention,
Marguerite.
On va être coupé.
Marguerite court-métrage.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. C'est Pâques, nous y sommes, à Pâques 2019. Peut-être allez-vous revoir pour la 20e fois le film de Zeffirelli sur la Passion du Christ, la vie de Jésus, ou peut-être allez-vous relire quelques livres sur le sujet, ou pourquoi pas les deux. sur cette musique de La Passion du Christ réalisée par Mel Gibson il y a maintenant quelques années et composée par John Debney. Laissez-moi vous présenter quelques livres peut-être assez surprenants qui existent tous évidemment en audio. Je vais commencer par L'imitation de Jésus-Christ de Thomas A. Kempis, qu'on retrouve notamment chez Audible. Le livre, c'est, dit-on, le livre du début du XVe siècle le plus imprimé dans le monde après la Bible. L'imitation de Jésus-Christ, qui a certainement été le livre écrit en latin le plus souvent traduit en français, et sa diffusion pourrait être qualifiée de prodigieuse. On nous dit en préambule que ce guide spirituel n'a certes jamais remplacé la parole de Dieu, mais que Fontenelle, qui n'était pas un auteur qu'on peut associer à la piété médiévale, dont il ne vivait pas d'ailleurs l'engouement, disait de ce livre « L'imitation est le plus beau livre qui sortit de la main d'un homme ». La controverse règne depuis toujours autour du nom de l'auteur de l'imitation, mais il semble qu'il faille attribuer cette œuvre à Thomas A. Kempis. Sur sa tombe, on peut lire cette inscription « J'ai cherché partout le repos et ne l'ai trouvé que dans un coin, avec un petit livre ». Pour vous présenter cet ouvrage, j'ai choisi de vous faire entendre quelques mots de ce préambule à l'imitation, tel que lu par Emmanuel Laferrière-Hamel. Je rappelle que ce livre est disponible en version commerciale.
Comment l'imitation de Jésus-Christ se présente-t-elle à l'homme du XXIe siècle, plus précisément aux chrétiens d'après Vatican II ? Eh bien, il faut le dire honnêtement, dès les premières pages, le lecteur est surpris de trouver dans ce texte une spiritualité empreinte d'un anti-intellectualisme assez fortement marqué, d'une piété exclusivement individuelle, surtout, peut-être, d'une mésestime qui ne cherche pas à se cacher pour les valeurs terrestres. Toute chose ne correspondant guère à la mentalité actuelle. Les critiques que l'on peut faire à ce sujet, et que l'on a faites, sont loin d'être négligeables. Que faut-il en penser ? Toute œuvre littéraire est tributaire du temps qui l'a vu naître. Aux historiens de la spiritualité de rechercher les raisons de l'élément négatif de l'ouvrage de Thomas A. Kempis, et au lecteur moderne de le lire avec compréhension et intelligence. L'accusé pourrait donc se défendre. Il pourrait même faire un peu plus que cela. Il me semble entendre frère Thomas interpeller vigoureusement notre époque du haut de ce ciel qu'il a tant cherché à faire connaître et désirer. La spiritualité de votre temps serait-elle parfaite par hasard ? Le discours desséchant de la raison raisonnante ne remplace-t-il pas parfois, peu ou prou, ce que vous appelez mon anti-intellectualisme ? Ma piété, que vous ne trouvez pas assez communautaire, ne pourrait-elle pas vous rappeler opportunément que l'on ne saurait être vraiment avec les autres si l'on n'a pas rencontré d'abord le Dieu personnel au fond de son cœur ?
Après l'imitation de Jésus-Christ, je voudrais vous présenter l'évangile selon Jésus-Christ ou Jésus-Christ, ça dépend comment on le prononce, de José Saramago. Ça se retrouve en version accessible à l'association Valentin Huy à la médiathèque, donc française. Ce livre du génial José Saramago l'aurait sûrement conduit directement sur le bûcher, dit-on. Mais Saramago, qui ne fait pas dans la dentelle en semant le doute à notre esprit, s'adresse à nous et s'interpelle, se demande si la mort du Christ sur la croix n'était pas sacrificielle, mais répondait surtout à l'orgueil de son Père, Dieu. Voici un extrait de ce livre, l'Évangile selon Jésus-Christ, de José Saramago. Et c'est Dieu qui parle. En fait, c'est un dialogue entre Dieu et son Fils, Jésus, mais c'est surtout le patriarche qui s'exprime. L'insatisfaction, mon fils, fut placée dans le cœur des hommes par le Dieu qui les a créés. Je parle de moi, évidemment. Mais cette insatisfaction, de même que tout ce qui les a fait à mon image et à ma ressemblance, je suis allé la chercher là où elle se trouvait, dans mon propre cœur. Et le temps qui s'est écoulé depuis lors ne l'a pas fait disparaître, au contraire. Je peux même dire que tout ce temps l'a même rendue plus vive, plus urgente, plus exigeante. Dieu s'interrompit ici un bref instant comme pour juger de l'effet de son exorde, puis il poursuivit. depuis 4004 années que je suis le Dieu des Juifs, peuple d'un naturel querelleur et compliqué, mais avec qui, si on fait le bilan de nos relations, je ne me suis pas trop mal entendu, dès lors qu'il me prend au sérieux et persévère dans cet état d'esprit aussi longtemps et aussi loin que ma vision du futur peut parvenir. Tu es donc satisfait ? Dit Jésus. Oh, je le suis. Je ne le suis pas, ou plutôt je le serai sans mon cœur inquiet qui me dit tous les jours « Eh oui, tu t'es fabriqué là un joli destin. Après 4000 ans de travail et de soucis que les sacrifices sur les autels, pour abondants et variés qu'ils soient, ne compenseront jamais. Tu continues à être le dieu d'un tout petit peuple qui vit dans une partie minuscule du globe du monde que tu as créé avec tout ce qui s'y trouve. Alors dis-moi, mon fils, si je peux me tenir pour satisfait quand j'ai tous les jours devant les yeux cette évidence mortifiante. Je n'ai créé aucun monde, je ne peux pas juger. » Dit Jésus. « Certes, tu ne peux pas juger, mais tu peux aider. Aider à quoi ? À étendre mon influence, à faire en sorte que je sois le Dieu de beaucoup plus de gens. Je ne comprends pas. Si tu remplis bien ton rôle, le rôle que je t'ai réservé dans mon projet, je suis absolument certain que dans un peu plus d'une demi-douzaine de siècles, même s'il nous faut lutter, toi et moi, contre maintes contrariétés, ce Dieu des Hébreux, je deviendrai, deux dieux des Hébreux, je deviendrai le Dieu de ceux qui nous appelleront, que nous appellerons les catholiques, à la manière grecque. Et quel est le rôle que tu m'as destiné dans ton projet ? « Celui de martyr, mon fils, celui de victime. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour propager une croyance et enflammer une foi ?» Clonez le Christ également chez AVH de Didier von Kovelhart. C'est un livre, laissez-moi vous le présenter peut-être en vous lisant quelques mots de l'auteur qui nous dit « C'est la plus grande énigme du monde, ou la plus belle arnaque de tous les temps. De la quête du Saint Graal aux manipulations génétiques, le sang de Jésus n'a jamais nourri autant de fantasmes qu'à notre époque, où certains voudraient remplacer l'Eucharistie par le clonage. Mais quelle réalité se cache derrière ces fantasmes ? Le même sang imprègne-t-il vraiment les reliques de la Passion ? Linceul de Turin, suaire d'Oviedo, tunique d'Argenteuil. Si elles sont authentiques, comment s'explique l'incroyable conversation des globules rouges et blancs que les biologistes y ont découverts ? L'ADN attribué à Jésus est-il réellement exploitable ? Et quel est le but de ceux qui aujourd'hui tentent le diable en voulant réincarner Dieu ? C'est dans « Cloner le Christ » de Didier von Kovelhart, chez AVH. Si je vous dis Noé maintenant, ça doit vous rappeler quelqu'un, non ? Et quelque chose ?
Noé, qu'est-ce qu'il a dit ?
Il va détruire le monde. Cela ne peut-il être évité ?
L'homme a corrompu ce monde. Il l'a empli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents.
Mère ! Qu'est-ce qu'il y a ? Là !
C'est la bande-annonce d'un film. La bande-annonce, voyons, je vais le dire, est très, très efficace. Le film, je l'ai vu. Je vous avouerai que vraiment, c'est pas un des meilleurs. C'est signé Irving Finkel. Oui, évidemment, c'est un grand déploiement, mais bon, mettons qu'on a tourné les coins ronds. C'est fait très, très à l'américaine, mais ça fait rien. C'est grandiose, comme on peut l'imaginer, avec le déluge tel qu'on l'imagine dans nos pires fantasmes et nos pires terreurs. Alors, tout le monde connaît l'histoire de l'arche de Noé et du déluge telle qu'elle est racontée dans la Genèse. Je vous ai dit une énorme bêtise. Je vous ai dit que le film était d'Irving Finkel. Absolument pas. Le film, il est de je ne sais plus qui et peu importe. Mais je voudrais vous présenter un livre d'Irving Finkel qui s'appelle « L'arche avant Noé, les origines de l'histoire du déluge déchiffré ». Alors donc, cette histoire que l'on connaît évidemment, qui est racontée dans la Genèse, depuis les années 1870, on sait qu'il y a une autre histoire, similaire, mais beaucoup plus ancienne, qui existait depuis des siècles dans l'antique Babylone. Mais celle-ci demeurait nimbée de mystères. Conservateur au British Museum et spécialiste international de la Mésopotamie ancienne, Irving Finkel, à qui on doit ce bouquin, s'est retrouvé plongé dans une véritable enquête policière inédite lorsqu'un visiteur lui a apporté au musée la mystérieuse tablette qu'il avait héritée de son père. Cette dernière ne présente pas seulement une nouvelle version du récit diluvien babylonien, l'auteur antique y décrit aussi la taille et la forme d'une arche tout à fait inattendu et livre les caractéristiques détaillées de sa construction. C'est ainsi qu'on va découvrir le lieu où les Babyloniens croyaient que l'arche avait accosté, ainsi qu'une nouvelle explication de l'introduction de cette histoire dans le texte de la Bible. L'arche avant Noé nous entraîne dans une authentique exploration du monde fascinant des Écritures antiques. Si vous êtes vous aussi passionné par l'histoire du Christ, par la Genèse, par toutes ces histoires fabuleuses qu'elle comporte, eh bien c'est un autre livre que je voulais vous suggérer. Puisqu'on parlait tantôt de Didier Van Kovelaert, il y a aussi l'Évangile de Jimmy. Ça, bon, évidemment, on n'est plus exactement dans la passion du Christ, mais on est avec un gars qui s'appelle Jimmy, il a 32 ans, il répare les piscines dans le Connecticut. Trois envoyés de la Maison-Blanche viennent de lui annoncer qu'il est le clone du Christ. Alors, c'est un livre dont on disait dans Madame Figaro notamment qu'il est totalement brillant, touchant, diablement ou divinement habile, un polar étourdissant, où Didier Van Kovelaert joue avec les nerfs de son héros et de ses lecteurs éblouis, puis complètement sonnés par autant de virtuosité narrative. Alors voilà pour tous ces livres que j'avais envie de vous présenter, qu'ils se retrouvent en version commerciale ou accessible. Sachez qu'en version commerciale, il n'y a quasiment aucun livre en français sur la passion du Christ. Il y en a des dizaines et des dizaines si vous êtes capable d'écouter de l'anglais. Alors là, vous en avez pour les chiens, pour les fous, il y en a. Mais en français, il n'y a quasiment rien. Heureusement, dans ces cas-là, mine de rien, qu'il y a les versions accessibles, notamment chez Valentin Huy en France ou au SQLA chez nous.
Ce soir, c'est le déluge, le dernier, le plus beau. C'est la vraie fin du monde, on a fait un bateau. On a pris des vermines un peu malgré nous. Il ne sauve rien, celui qui ne sauve pas tout. Noé, Noé, Noé. On a pris des lentilles, on a pris des bijoux. On aimait ce qui brille, la nuit qui rend fou. On a pris l'éléphant et ses deux dernières dents. Dernier éléphant, premier million de cure-dents. Et le drapeau. On a pris les castors, on a pris les oiseaux et toutes les fourrures pour nous faire des manteaux. On s'est dit les poissons, ils resteront dans l'eau. Comment mettre une baleine tout au fond d'un bateau? On a pris des gazelles et même des manchots, un couple d'hirondelles, des putois, des blaireaux. Froid tout au fond du bateau, on a pris des menteurs.
pour dire qu'il fait chaud. Et le drapeau. Oh, oh, oh. Noé, Noé. Oh, oh, oh. Comme on avait compris qu'on n'aurait pas de journaux, on a pris des mannequins pas trop maigres et très beaux, des tonnes de maquillage, de dentelles, de maillot pour faire face à la plage quand il referait beau. Noé, Noé, Noé. On a pris des punaises pour les posters de Dieu, ces rêves de camionneurs qui nous passent le cœur. Ce soir c'est le déluge, le dernier, le plus beau, c'est la vraie fin du monde. On a fait un bateau. Et le drapeau.
Bon vieux Julien Clerc sur les ondes de Canal M, ça fait jamais de mal à personne. On va quitter la Passion du Christ, quoique il sera question dans le livre que je vais vous présenter maintenant d'un autre miracle, du miracle de deux, trois rencontres entre des individus qui n'ont peut-être rien à faire les uns avec les autres. Je m'explique. J'ai lu pour vous cette semaine un livre qui s'appelle Un poignard dans un mouchoir de soie. C'est le petit dernier de Robert Lalonde. Je lis presque toujours le dernier livre de Robert Lalonde. Hein, il n'en est pas à son premier, ça fait deux dizaines au moins qu'il écrit, M. Lalonde. Il est déjà venu faire mon émission Des livres pleins les oreilles, deux fois plutôt qu'une. Mais en ce moment, il était difficile de venir jusqu'à moi, jusqu'à vous. Comment lui en vouloir ? J'ai lu malgré tout Un poignard dans un mouchoir de soie. Et oui, une nouvelle fois, je suis tombée dans cette nouvelle bulle dans laquelle, honnêtement, je me suis laissée porter avec joie. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous suivons trois personnages. Nous suivons Irène, qui pourrait très bien prendre les traits d'une Béatrice Picard, comédienne, surtout de théâtre, surtout de rôle tragique de femme mûre, mourante sur scène, une femme âgée, assez âgée, qui n'a jamais pris le temps d'aimer, une femme qui a le sentiment de perdre la mémoire, d'oublier son passé. Il y a également Romain. Romain, c'est un veuf, il était professeur de philo, il est maintenant à la retraite, un type brillant, un humaniste. Un homme seul, lui aussi depuis son récent veuvage. Et puis, il y a surtout Jérémie. Jérémie, jeune homme, mais jeune comment ? Ado, 20 ans, 30 ans, difficile à dire et difficile à cerner au propre comme au figuré sous l'espèce de capuchon qui lui cache le visage. Irène, Romain et Jérémie n'ont rien en commun et pourtant, c'est ce dernier, Jérémie, qui va provoquer la rencontre entre les deux premiers. Chacun de leur côté, d'abord, Irène et Romain vont aimer, comme des fous, presque jusqu'à la limite du désir physique, ce jeune Jérémie qu'ils rencontrent dans des circonstances différentes. Il est drogué, il est paumé, il est lettré, il est artiste, il traîne un passé lourd, très lourd, on va finir par le comprendre, un passé qui va l'amener au présent jusqu'aux assises. Mais ça, je n'en dirai pas plus. Ce que je vous dirai, en revanche, c'est que la rencontre entre ces deux personnes âgées qui n'ont plus beaucoup d'avenir devant eux et ce jeune qui n'en a peut-être pas plus qu'eux d'ailleurs donne lieu à de merveilleuses pages d'écriture, très douces, drôles parfois, singulières toujours, Comme, tenez, j'ai un passage pour vous. Alors qu'on assiste à une des premières rencontres entre Irène et Romain, et pour la première fois, ils se permettent de partager quelques mots sur ce qu'ils vivent respectivement avec Jérémy. Il s'agit donc d'un dialogue. C'est elle qui commence par parler. « Vous savez qu'il se drogue ?»«
Ça ne fait aucun doute pour moi. »«
Je l'ai même aidé un soir, à se piquer. »«
Ah, mais comment ?»«
Une autre fois peut-être, je vous raconterai. » Vous lui donnez de l'argent ?
Il ne m'en a demandé qu'une seule fois et encore, c'était, comme on dit, du petit change.
Il se prostitue probablement ?
Sans doute, mais pas avec moi.
Avec moi non plus ?
Il ne manquerait plus que ça, à mon âge.
Vous l'aimez ? Il faut croire que oui, je sais, et en même temps ignore tout à fait pourquoi.
Même chose pour moi.
Exactement. Il a disparu.
Non, je l'ai vu avant-hier soir encore.
Non, je veux dire, il y a de ça plus d'un mois et pour 3 longues semaines.
Ah oui, bien sûr, oui, il a disparu.
Vous savez où il est allé ?
Pas la moindre idée.
Moi non plus.
Mais vous, au théâtre, ce soir et ensuite, dans ma loge.
Oui.
C'était en quelque sorte prémédité, non ?
Prémédité ?
Je veux dire, il voulait que vous, que nous
fassions connaissance.
Je le crois, oui.
Pourquoi ?
Le diable, sans doute.
Mais ce n'est pas plus mal, non ?
Je veux dire... Oh, Charles !
Comme je vous l'ai appris tout à l'heure avant que nous avalions ces 2 traîtres verres en nous lançant des banalités au visage. Mon nom n'est pas Charles, mais bien Romain. Elle pouffe, s'étouffe, réclame de la main un secours qu'il est le seul à pouvoir lui porter. Le bar s'étant vidé depuis qu'ils y ont pris place, si bien qu'il tire de sa poche un mouchoir parfaitement propre, qu'il lui tend sans façon. Voilà, un extrait de... Un poignard dans un mouchoir de soie de Robert Lalonde.
Un bon petit diable a la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons. Et bras dessous vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit : je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu qui criait « Sois sage », il posa sa bouche en guise de baillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, ils feront bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.
Georges Brassens, bien sûr, sur les ondes de Canal M. Un petit rappel pour vous dire que le livre de Robert Lalonde, Un poignard dans un mouchoir de soie, se retrouve en version accessible ici au SQLA. Voilà, c'est ainsi que cela s'achève pour cette semaine. Je voudrais remercier Jean-Sébastien Laliberté qui était en régie aujourd'hui et je voudrais surtout remercier ces gens qui ont eu la gentillesse de venir jusqu'à vous pour vous parler. Je pense à Béatrice Picard dont l'horaire est toujours aussi chargé. Merci Béatrice de nous avoir donné ce livre « À mon âge, on peut tout dire ». Et puis merci aussi pour votre témoignage aujourd'hui et merci à Michel Keble qui a lu à haute voix le livre de Béatrice Picard. C'était Clotilde Seille qui va vous souhaiter de très joyeuses Pâques et qui va vous donner rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission de Des livres plein les oreilles. Salut.